Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. C'est parti pour deux heures d'actualité avec vous. À mes côtés, Marion Calais. Bonsoir Marion.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
RTL Soir exceptionnel pour tout comprendre sur la guerre en Ukraine. Quatre invités, quatre événements. Tout d'abord un document, le témoignage RTL du maire de Mariupol, ville martyre, coupée du monde, sous les bombes. Avec nous également, Vitali Klitschko, l'ancienne légende de la boxe, aujourd'hui maire de Kiev, la capitale. Les troupes russes sont à ses portes. Invité aussi Florence Parly, la ministre des Armées. Faut-il envoyer ou non des avions de chasse à l'Ukraine? Nous lui poserons la question. Et puis Kaja Kallas, première ministre de l'Estonie, avant le sommet des 27 à Versailles. Sa capitale en Estonie est à 300 km seulement de Saint-Pétersbourg.
Et avant ce sommet largement consacré à la question énergétique et à la dépendance de l'Europe au gaz russe, Emmanuel Macron se dit inquiet et pessimiste. Dans ce journal aussi, le candidat Macron qui veut repousser l'âge de la retraite à 65 ans et le coup de sang des dirigeants du PSG hier après la défaite contre le Real Madrid, descente au vestiaire des arbitres, coups sur les murs, comportement agressif, un rapport est sur la table de l'UEFA.
À 18h40, on va défaire le monde, les 20 minutes d'actu autrement avec Cyprien Sini et la bande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Le menu.
Ce soir, pour mieux cerner le personnage, on vous emmène dans l'intimité de Vladimir Poutine. Femme, maîtresse, enfant, vous découvrirez de quoi est faite la bulle familiale si mystérieuse du président russe. Au menu également, le PSG et la complainte de l'arbitrage. Et on vous offrira un an de carburant. Comme ça, ça peut aider en ce moment.
Ça, c'est cadeau. À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet. Et puis tout au long de l'émission, des points météo réguliers avec Céline Dacosta. Bonsoir Céline.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
La tendance.
Changement de décor avec un ciel agité demain, grisaille, pluie et vent au programme.
On vous retrouve dans quelques minutes.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Au 15e jour de l'invasion russe en Ukraine, l'impossible dialogue entre les deux belligérants.
1h40 de discussion ce matin à Antalya en Turquie. Pas de cessez-le-feu. La Russie dit ne pas avoir attaqué son voisin. L'Ukraine, elle, martèle qu'elle ne se rendra pas. Kiev, d'ailleurs, se prépare à faire face aux chars russes qui se rapprochent de la ville.
Et sur la route de Kiev, on retrouve l'envoyé spécial de RTL, Émilie Bojar, précisément à Ouman, à 200 km au sud de la capitale. Vous êtes passé, Émilie, par l'ouest de l'Ukraine. Qu'avez-vous vu sur votre route ?
Oui, je suis passée par Lviv et donc j'ai mis un peu plus de 10 heures de trajet pour faire 500 km vers le centre de l'Ukraine. Une route plutôt facile vu les circonstances. Il a fallu quand même passer plusieurs checkpoints tenus par les forces de défense territoriale ukrainienne sous la neige et sous moins 5 degrés. Le peuple ukrainien se mobilise pour défendre chaque entrée de ville et de village avec des sacs de sable et des obstacles anti-chars. Les panneaux de signalisation qui indiquent les directions des villes sont cachés, tout comme le nombre de kilomètres. Ici, tout le monde anticipe l'arrivée des soldats russes et multiplie les idées pour les ralentir. De nombreuses affiches appellent aussi les hommes ukrainiens à prendre les armes. Nous avons vaincu Hitler, nous vaincrons Poutine, peut-on lire à plusieurs endroits. Ce soir, les troupes russes continuent leur avancée vers Kiev, notamment dans le nord-est. Selon le maire de la capitale, plus de la moitié des habitants ont déjà quitté les lieux.
Émilie Bojar sur la route de Kiev pour RTL. Et ce maire, l'ancienne star du ring, l'ancienne star de la boxe, Vitali Klitschko, sera l'un des invités de RTL Soir dans quelques minutes.
Depuis le début du conflit, au moins 71 enfants ont été tués, selon les autorités ukrainiennes, dont une fillette hier dans le bombardement de la maternité de Mariupol au sud-est du pays.
Après ce bombardement, le chef de la diplomatie européenne a dénoncé un crime de guerre odieux. De son côté, Moscou se défend et assure qu'il s'agit d'une mise en scène.
Oui, qui est mise en place par les militants nationalistes. Et document RTL ce soir. Après ce bombardement, le témoignage du maire de Mariupol. Sa ville, au bord de la mer d'Azov, est assiégée. Plus de gaz, plus d'internet. Sergueï Orlov décrit à Nicolas Burnan un quotidien chaotique sous des bombardements incessants.
Vous ne pouvez pas imaginer quel est le sentiment de vivre sous des bombardements qui ne s'arrêtent jamais. Il y a plus de 400 000 personnes qui sont bloquées. La ville est en guerre depuis 14 jours, assiégée par les troupes russes. Nous manquons de tout. Il n'y a plus d'électricité, de chauffage, de station d'épuration. Sur les 6 hôpitaux de Mariupol, 2 ont été totalement détruits. Nous vivons comme dans les anciens temps. Les habitants ramassent du bois, préparent de la nourriture en faisant du feu, et ils sont heureux quand ils peuvent récupérer un peu de neige pour avoir de l'eau. Hier, des personnes sont mortes de déshydratation.
À Mariupol, dans votre ville, savez-vous combien de personnes sont mortes ?
Nous estimons que plus de 1200 personnes ont déjà perdu la vie, la plupart tuées dans la rue par des tirs d'artillerie. Mais je pense que le nombre est en réalité 2 à 3 fois plus élevé. On ne peut pas compter combien. Nous avons demandé à nos services municipaux, en particulier des volontaires, de ramasser les cadavres et de les transférer au centre-ville pour constituer des fosses communes. Et la vérité, c'est que nous n'avons pas pu identifier tout le monde. L'armée russe ne nous autorise pas à enterrer les corps à l'extérieur de la ville où se situe traditionnellement nos cimetières.
Quel est le message que vous souhaitez faire passer à l'Europe ?
Au début, nous pensions que l'objectif de Vladimir Poutine était de battre l'armée ukrainienne. Mais maintenant, nous comprenons qu'il veut l'Ukraine sans les Ukrainiens, c'est-à-dire tuer le plus de civils possible, jour après jour, heure après heure. Poutine et son armée sont en train de réaliser le génocide de la population ukrainienne. Et cela se produit au XXIe siècle, au cœur de l'Europe. Vos dirigeants doivent prendre conscience de cela. Nous leur demandons de nous donner des armes le plus rapidement possible, pour nos femmes, nos enfants, pour que nous puissions défendre nos vies.
Le témoignage exceptionnel du maire de cette ville coupée du monde, sans eau, sans électricité, le maire de Mariupol, Sergueï Orlov, joint pour RTL par Nicolas Burnand.
Cette invasion russe qui pousse l'Europe à s'organiser. Les 27 chefs d'État et de gouvernement réunis depuis quelques minutes à Versailles.
Pour un sommet européen prévu de longue date et largement consacré aux conséquences de la guerre en Ukraine, au premier rang desquelles la dépendance européenne aux énergies russes qu'Emmanuel Macron vient tout juste d'évoquer.
Il y a la question de savoir si la Russie va à un moment donné faire pression et utiliser l'arme du gaz. Le président Poutine s'est exprimé tout à l'heure pour dire que la Russie continuerait à fournir. Jusque quand, en fonction de quoi, nul ne sait. C'est ça une dépendance, une vulnérabilité. Et donc nous devons nous préparer à tous les scénarios. À tous les scénarios.
Martial Liu, vous allez suivre ce sommet pour RTL. Bonsoir.
Bonsoir.
L'énergie, c'est clairement un sujet central.
Ah oui, c'est vraiment l'équation la plus difficile à résoudre pour les dirigeants européens ici. Il ne faut pas se fier au sourire sur la photo de classe qu'on vient de faire à l'instant dans la cour privée, la cour pavée face aux murs roses et dorés du château. La République tchèque ou la Lettonie dépendent à 100% du gaz russe. L'Allemagne et l'Italie achètent la moitié de leur gaz à Moscou. Donc il faut être ferme, bien sûr, mais les 27 ne peuvent pas non plus couper le robinet. Donc les dirigeants vont chercher de nouveaux fournisseurs, du gaz américain ou norvégien par exemple. L'Allemagne va aussi investir dans des terminaux gaziers pour ne pas dépendre uniquement des gazoducs russes. Et on va aussi parler d'une action commune aux 27 pour faire comme la France, à savoir plafonner le prix du gaz pour les consommateurs. Donc il devrait y avoir aussi là un appel à moins consommer pendant les prochains mois pour épargner les stocks de gaz, parce que le gaz, c'est vraiment le sujet, vous venez de l'entendre avec Emmanuel Macron, le plus sensible, bien avant le pétrole.
Oui, une réponse très concrète de l'Europe. On l'entend, Martial, les 27 qui vont aussi tenter de se mettre d'accord sur la création d'une force de défense commune en Europe, avec quand même une question centrale dans tout ça, Martial. Comment ça va être financé ?
Oui, et c'est là que ça risque d'être plus compliqué d'accorder les violons. Les Français aimeraient bien qu'on relance un plan de soutien sur la guerre, comme on l'a fait pour le Covid, 750 milliards d'euros. Mais ça ne passe pas auprès des pays plus rigoureux sur les finances publiques, comme l'Allemagne ou les Pays-Bas. En revanche, tout le plan Covid n'a pas été dépensé. Donc on pourrait utiliser le reste de l'enveloppe, on parle de 200 milliards quand même encore, pour financer un plan militaire, une filière de semi-conducteurs, une politique agricole plus diversifiée ou une industrie de l'hydrogène autonome. Ça fait partie des discussions qui vont avoir lieu maintenant dans les heures qui viennent.
Voilà, les 27 qui ont pris place désormais autour de la table pour ces discussions et ce sommet européen que vous allez suivre pour RTL. Martial Liu, Versailles, où Emmanuel Macron a accueilli chacun des participants devant le château, le chef de l'État candidat qui semble avoir fait aujourd'hui l'unanimité contre lui avec cette proposition d'une retraite repoussée à 65 ans s'il est réélu pour un nouveau mandat.
Proposition brutale et floue pour le patron de la CFDT, Laurent Berger, au micro RTL de Tom Lefebvre.
C'est, je crois, une réforme qu'on combattra parce qu'elle serait injuste. La moitié des salariés qui partent en retraite dans notre pays ne sont plus en emploi. On annonce cette mesure, mais on n'annonce pas ce qu'on va faire sur les travailleurs seniors, on n'annonce pas ce qu'on va faire sur des mesures de compensation, etc. C'est brutal. 65 ans, c'est pas rien. C'est une augmentation de 3 ans de l'âge légal. Ce qui me préoccupe aussi, c'est que c'est annoncé pour financer d'autres besoins que le sujet des retraites. La retraite par répartition, c'est un système qui s'équilibre par la solidarité entre les générations.
Le patron de la CFDT, Laurent Berger, qui dénonce donc, on l'entend, une proposition floue. Alors, dans les faits, Arnaud Touche, la mesure a quand même déjà été en grande partie détaillée.
Oui, car par exemple, la transition de l'âge de départ à la retraite de 62 ans actuellement à 65 ans demain sera progressif et se fera sur 9 ans exactement. Si Emmanuel Macron est élu dès l'année prochaine, il y aura 4 mois cotisés en plus pour chaque génération, chaque année, jusqu'en 2032 donc. Et du coup, la première génération qui partirait à 65 ans, eh bien serait celle née en 1969. Une petite nuance tout de même pour les carrières longues, intenses et usantes. Partir à 62 ans restera possible, a précisé le Premier ministre Jean Castex. Et la retraite à 55 ans pour les personnes handicapées sera actée. Le candidat Emmanuel Macron est aussi favorable à un minimum de retraite à 1100 euros pour les carrières complètes. Et il plaide également pour la suppression des principaux régimes spéciaux, comme ceux de la RATP ou d'EDF, mais uniquement pour les nouveaux entrants.
Voilà les explications d'Arnaud Touche du service économie de RTL.
Allez, très courte pause dans ce journal et dans un instant, restez bien à l'écoute parce qu'on va détailler, vous expliquer ce qui s'est passé hier dans les couloirs du stade Santiago Bernabéu à Madrid. Coup de sang du président du PSG après la défaite de son club. A tout de suite.
RTL Soir, Julien Sellier. Julien Sellier,
RTL Soir.
18h12, vous écoutez RTL, la suite de votre journal. Tiens, au lendemain de l'élimination du PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions, les dirigeants du club dans la ligne de mire, et pour cause, écoutez bien.
Dans le viseur, le président et le directeur sportif du PSG, Mathias Valton, vous êtes le correspondant de RTL à Madrid. Ils ont, semble-t-il, plus que perdu leur nerf après la défaite 3-1 à Madrid hier soir.
Oui, c'est une scène surréaliste qui a eu lieu hier juste après la rencontre. Selon des témoins consultés par RTL, Nasser Al-Khelaïfi, hors de lui, quitte la tribune présidentielle avant le coup de sifflet final pour rejoindre le vestiaire des arbitres. Il est accompagné de Leonardo, son directeur sportif. Dans les couloirs, le président du PSG, furieux, hurle et frappe sur les murs. Les deux dirigeants tentent ensuite d'entrer dans le vestiaire des arbitres. Ces derniers les repoussent et tentent de fermer la porte. Leonardo la bloque, alors que son président, dans un excès de rage, se saisit du drapeau d'un des arbitres de touche et le brise en deux. Al-Khelaïfi se rend compte alors qu'un employé du Real Madrid filme cette scène irréelle. Il lui crie en anglais d'arrêter de filmer avant de frapper la main qui tient le téléphone portable, qui finit par tomber au sol. Les médias espagnols rapportent même que le président parisien aurait menacé le vidéaste amateur en lui lançant un « je vais te tuer ». Leonardo, lui, réclame à ce moment-là que la vidéo soit effacée. Des membres de la sécurité du Real et des agents de police sont obligés d'intervenir pour calmer les dirigeants du PSG. Dans son rapport, le délégué de l'UEFA les accable et parle de comportement agressif. Il a réclamé la vidéo au Real, qui lui a transmis, mais le club madrilène se refuse à la rendre publique pour ne pas ternir davantage l'image de Nasser Al-Khelaïfi.
Voilà, comme si la défaite du
absolument
PSG ne suffisait pas. Surréaliste, c'est bien le mot. Mathias Valton à Madrid pour RTL. Et puis, c'est un peu le paradoxe sanitaire du moment. Lundi, les masques en intérieur vont tomber, au bureau notamment. Dans le même temps, les contaminations remontent, plus 20% hier. Alors, cette tendance va-t-elle freiner les salariés, les insister à garder les gestes barrières? Pour RTL, Frédéric Perruche a sondé la trentaine de salariés d'une PME de Lyon. Et le résultat du sondage est très clair.
Ah oui, il n'y a pas photo, c'est un soulagement massif et unanime. Personne ici, parmi la quinzaine de salariés présents dans ce vaste open space, pour s'inquiéter de ce masque qui s'apprête à tomber. L'image d'Audrenne, chef de projet.
C'est un peu une libération, et puis de retrouver un petit peu le contact humain, le sourire, etc. sur le visage des gens, c'est assez important. Moi, je suis pilote de projet, donc j'ai besoin de communiquer avec mes clients, qu'ils puissent voir sur mon visage qu'il n'y ait pas d'inquiétude pour leur projet, que tout se passe bien, que j'ai le sourire. C'est important pour moi, et je pense que ça sera bien.
Le plus heureux, à l'évidence, c'est même le patron d'Acti, Laurent Constantin, qui a souffert, comme toutes ses équipes, de cette contrainte nécessaire mais usante.
C'était quand même ce masque, un symbole générateur de stress qui coupait la communication entre les gens. Moi, je suis très, très joyeux. Il reviendra, mais quand il reviendra, ça ne sera plus une contrainte. Je pense que ce sera considéré comme une bonne pratique.
Alors, bien sûr, le gel hydroalcoolique restera à disposition, maintien également d'un certain certain espace entre les bureaux, mais on pourra de nouveau organiser des pots d'entreprise. Et le premier est déjà programmé jeudi prochain pour la Saint-Patrick.
Bon, il va falloir qu'on se mette d'accord pour le bureau d'RTL soir, hein, Julien.
Effectivement, ça va faire l'objet d'autres discussions, je pense. Merci Marion Calais, bonne soirée. Le temps maintenant pour demain, Céline.
On va changer de décor. Hein, je vous le disais, la perturbation qui est beaucoup plus active et qui va rentrer dans les terres demain matin. Pour tout le monde, des nuages, ça c'est clair, à part peut-être sur l'Ardennais et l'Alsace, on a encore un peu de soleil. La Corse qui va garder un temps calme toute la journée. De la Bretagne à la Normandie jusqu'en Occitanie, de la pluie. Des averses qui seront fréquentes sur le Languedoc-Roussillon. Attention aux pluies en soirée qui seront soutenues sur les Cévennes à surveiller. Et puis ces averses, elles vont s'étendre de la Normandie au sud de la Garonne dans l'après-midi, se décaler vers l'est. Pour les températures, ça sera encore un petit peu frais dans le nord-ouest demain matin. Pour les autres, la moyenne ira de 6 à 11 degrés. Puis l'après-midi, en légère baisse, forcément avec la pluie, 11 à 17 degrés.
Merci beaucoup, Céline. RTL Soir revient dans quelques secondes. RTL Soir exceptionnel. 4 invités, 4 événements ce soir pour tout comprendre sur la guerre en Ukraine. Le deuxième invité, c'est Vitali Klitschko, l'ancien champion du monde de boxe et désormais maire de Kiev. Il sera avec nous juste après ça. Les troupes russes sont désormais aux portes de la capitale. À tout de suite.
RTL Soir avec Julien Cellier. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir.
RTL Soir exceptionnel, donc si vous nous rejoignez, 4 invités, 4 événements pendant cette heure et quart d'information. Le second ce soir, c'est une légende de la boxe, champion du monde, star du ring et désormais maire de Kiev. Vitali Klitschko est avec nous depuis l'Ukraine. Bonsoir.
Good evening.
Les forces russes ne sont plus qu'à 15 km de votre ville, la capitale, la banlieue est assiégée. Racontez-nous, que se passe-t-il là en ce moment dans vos rues hein.
Actuellement, les enfants et les femmes ont quitté la ville. Mais tous ceux qui restent aujourd'hui se tiennent debout. Tous ces citoyens en ville enfilent des uniformes, prennent des armes dans leurs mains pour défendre leur ville. Nous défendons nos familles et nos maisons. En ce moment, pas très loin de Kiev, à Bortokiv, à l'aéroport, à Boutcha, à Hostomel, dans nos banlieues, il y a des combats très importants. Mais le but de l'armée russe, ce n'est pas la banlieue. C'est ici, c'est Kiev. Mais nos soldats détruisent les avions de l'agresseur et nous sommes fiers de notre armée.
Et est-ce que vous vous attendez à une attaque imminente sur Kiev?
Aujourd'hui, nous entendons à 24 heures sur 24 les sirènes, les alarmes qui préviennent des raids. Une partie de la population a déjà passé 2 semaines dans des bunkers. Mais il n'y a pas de panique. Tout est sous contrôle. Mais bien sûr, nous pouvons être attaqués d'une minute à l'autre.
Vous, le maire, Vitali Klitschko, dites-nous, vous êtes prêt personnellement à prendre les armes ?
Oui, bien sûr, je reste ici à Kiev. Les citoyens m'ont donné le droit de défendre notre ville, de les défendre. C'est pourquoi je me battrai pour ma famille, pour ma ville, pour mon pays.
Vous savez, Vitali Klitschko, combien d'habitants ont réussi à fuir votre ville ?
Avant l'agression, on avait 3,5 millions d'habitants. Maintenant, il en reste un peu moins de 2 millions.
Vitali Klitschko, un petit peu plus tôt dans RTL Soir, nous avions en ligne, et c'était un vrai témoignage, le maire de Mariupol, la ville martyre où une maternité a été bombardée hier. Ce bombardement de maternité, c'est un symbole terrible, ce raid pour votre pays.
Vous savez, la guerre a détruit les infrastructures de notre pays, a détruit notre économie, a détruit toute vie normale en Ukraine. Et la guerre est un désastre, pas seulement pour notre pays, mais pour toute l'Europe. Cette guerre, s'il vous plaît, comprenez bien ça. Ce n'est pas juste une guerre ukrainienne. Nous ne nous battons pas seulement pour notre pays, mais aussi pour des valeurs, les principes de l'Europe. On ne sait pas où Poutine compte s'arrêter. Peut-être aux portes de la Pologne, de l'Allemagne ou ailleurs. C'est pourquoi l'unité est la clé pour notre liberté.
Vous parlez d'unité, Vitali Klitschko. Ce soir, ici en France, sommet européen des 27 dirigeants au château de Versailles. Qu'est-ce que vous réclamez à ces dirigeants? De quoi avez-vous besoin? Est-ce que vous avez besoin d'avions de chasse, notamment?
Nous avons besoin d'avions de chasse, des armes modernes, parce que nous affrontons l'une des plus importantes armées du monde. Nous ne sommes pas agressifs. L'Ukraine a toujours été pacifiste. Mais Poutine veut refonder l'Empire soviétique. Nous ne voulons pas retourner en URSS. Vous savez, certains dirigeants européens essaient d'atténuer les sanctions. Nous comprenons, elles touchent aussi vos économies. Mais vous devez décider, vous êtes de notre côté ou du côté de l'agresseur. Nous avons besoin d'aide, de sanctions envers la Russie pour que les Russes fassent pression sur leur gouvernement pour arrêter cette guerre.
Vitali Klitschko, dites-nous, en cas de siège de votre ville dans les jours à venir, vous pouvez tenir combien de temps en termes de vivres ?
Je voudrais déjà remercier tous ceux qui envoient de l'aide humanitaire, de la nourriture, des médicaments. Nous pouvons tenir 10 jours avec la nourriture et l'eau que nous avons.
Merci Vitali Klitschko, maire de Kiev, vous, l'ancien champion du monde de boxe, d'avoir été ce soir notre invité dans ce RTL Soir spécial. Merci.
Merci pour votre aide. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas, ce n'est pas une guerre simplement contre l'Ukraine. C'est une guerre contre les principes de l'Europe et de la démocratie. Si vous pensez, tous ceux qui nous écoutent, si vous pensez que ce n'est pas votre guerre, si vous pensez que cette guerre ne vous touche pas, vous faites une énorme erreur. Elle touche tout le monde en Europe. S'il vous plaît, soyez actifs. S'il vous plaît, aidez l'Ukraine, parce que vous aiderez vos propres pays et nos principes. Nous gagnerons et l'unité sera la clé pour arrêter la guerre.
L'unité sera la clé pour arrêter la guerre. Merci Vitali Klitschko, merci d'avoir été avec nous ce soir sur RTL. Vous avez réclamé des armes modernes, des avions de chasse. Est-ce que l'Europe peut les livrer? On va poser la question à notre troisième invité de ce RTL Soir exceptionnel dans un instant. La ministre des Armées, Florence Parly, sera avec nous en studio juste après ça, tout de suite.
Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr.
Julien Cellier,
l'invité d'RTL Soir.
18h28, bonne fin de journée avec RTL. Quatre invités, quatre événements, RTL Soir exceptionnel aujourd'hui au plus près du terrain pour tout comprendre de cette guerre en Ukraine. Florence Parly, la ministre des Armées, est avec nous maintenant en studio. Bonsoir.
Bonsoir.
À l'instant, notre invité précédent était Vitali Klitschko, l'ancienne star de la boxe, aujourd'hui maire de Kiev. Comme son président Zelensky, il demande des avions de chasse et vite. On a la sensation que cette requête, Florence Parly, elle embarrasse un peu les Occidentaux aujourd'hui. Quelle est la position de la France, hein ?
Mais notre objectif, c'est de pouvoir soutenir au maximum l'Ukraine. On le fait sur différents champs. Le premier, c'est évidemment l'aide humanitaire. Puis c'est l'aide financière, l'accueil aux réfugiés. L'Europe est en train de s'organiser. Des mesures fortes ont été prises pour cela. Ce matin même, une cellule interministérielle de crise organisée au ministère de l'Intérieur coordonne l'action des pouvoirs publics pour pouvoir accueillir au mieux les réfugiés. Mais bien sûr, il y a aussi l'aide que nous souhaitons continuer d'apporter aux forces armées ukrainiennes. Donc dès le départ, le président Zelensky a exprimé un certain nombre de besoins, des demandes que nous nous sommes efforcés d'honorer. Très rapidement, nous avons acheminé du matériel de protection des militaires et puis des armes dont je ne vous donnerai pas le détail parce que nous ne cherchons pas du tout, bien au contraire, à communiquer là-dessus pour une raison toute simple, c'est que la discrétion en ces matières est clé. Ne pas être discret, eh bien, c'est fournir du renseignement. Comme l'a très bien dit mon collègue ministre de la Défense ukrainien lui-même, c'est fournir du renseignement aux Russes.
On va revenir sur la discrétion, mais juste sur cette question des avions. Parce qu'on a vu la Pologne, les États-Unis réfléchir à l'envoi d'avions de chasse à l'Ukraine. Mais la question, c'est comment maintenant? Personne ne semble vouloir prendre la responsabilité de les acheminer. Pourquoi? Parce que ce serait peut-être perçu comme une déclaration de guerre de la part des Russes?
La question très délicate, c'est de savoir jusqu'où ne pas aller pour ne pas risquer de basculer dans une autre guerre qui n'est pas la guerre que la Russie a livré et livre toujours à l'Ukraine.
Un conflit généralisé.
Mais un conflit beaucoup plus généralisé. Or, vous savez bien sûr que tous nos efforts, aujourd'hui et depuis des semaines, sont orientés pour tenter d'obtenir d'abord un cessez-le-feu, ça c'est l'urgence absolue, cesser les combats, permettre aux civils d'être évacués dans les moins mauvaises conditions possibles, et puis poursuivre la désescalade et ouvrir de véritables négociations. Donc, on ne peut pas en même temps, si je puis dire, tenter jusqu'au bout cet effort diplomatique considérable que le président de la République a initié déjà depuis des semaines, et puis prendre le risque de changer complètement la physionomie de ce conflit. Et il faut quand même rappeler que nous, la France, nous, l'Europe, nous, l'OTAN, nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. La Russie a envahi l'Ukraine, la Russie a créé de toutes pièces une guerre vis-à-vis de l'Ukraine, mais nous, nous ne sommes pas en guerre vis-à-vis de la Russie.
Vous parliez de l'envoi des armes à l'Ukraine et de cette question de la discrétion. C'est vrai qu'il y a eu cette polémique hier avec cette petite phrase du député insoumis Alexis Corbière. Je vous propose de la réécouter.
Mais premièrement, il y en a très peu. Vous parlez des armes françaises. Franchement, c'est des gilets pare-balles et quelques missiles anti-char.
Est-ce qu'il a été imprudent, Alexis Corbière, en révélant la nature de certaines des armes? Parce que vous l'avez dit, la France, jusqu'ici, pour des questions de sécurité, refuse de donner une liste détaillée.
Deux choses. Je pense que le moins on en dit, le mieux c'est, pour les raisons de confidentialité et de sécurité des forces armées ukrainiennes elles-mêmes. Et puis le deuxième point, c'est que je n'ai pas l'habitude de commenter ce que les élus de la République disent. Voilà.
Mais c'est vrai que vous-même, le 1er mars devant le Sénat, vous disiez des missiles, des munitions vont être livrés. Ça a fait beaucoup de bruit, cette polémique. Je voudrais quand même avoir votre position. Il a été imprudent, Alexis Corbière?
Je pense qu'il faut en dire le moins possible. Voilà.
Mais pourquoi la France ne veut pas donner de détails alors que certains pays européens, eux, détaillent l'arsenal qu'ils envoient à l'Ukraine? Il n'y a pas eu de coopération?
Certains pays européens avaient commencé par donner des détails et vous aurez certainement remarqué que tout le monde a bien compris que ça n'était pas la bonne attitude à adopter. Et donc, aujourd'hui, les pays européens sont très discrets sur ce qu'ils font et ils ont raison.
La France a envoyé des renforts aux frontières de l'OTAN. Par exemple, nous assurons avec nos avions la police du ciel en Pologne, en quelque sorte, pour éviter toute intrusion sur le territoire polonais, donc le territoire de l'OTAN et l'Union européenne. Imaginons, Florence Parly, je sais que c'est un peu de la politique fiction, mais si un avion russe tente d'entrer en Pologne, on a vu des avions russes franchir l'espace aérien suédois, par exemple, ces derniers jours. Quelle est la procédure pour nos pilotes dans ce cas-là?
Nos pilotes sont entraînés. Nos pilotes ont des missions quotidiennes de défense aérienne. Il peut arriver que dans le ciel national, un avion se trouve à un endroit où il ne devrait pas. Donc ce sont des procédures qui sont extrêmement bien connues, pratiquées, auxquelles nos pilotes s'entraînent.
Mais donc, il y a une consigne aujourd'hui, ça va peut-être vous choquer ce que je vais vous dire, mais on tire ou on ne tire pas?
Le protocole est très connu. Moi, je ne suis pas pilote de chasse, donc je ne vais pas vous réciter le protocole, mais le protocole est très connu, que ce soit au plan national ou au plan de l'OTAN. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces missions de police du ciel, elles sont destinées à protéger et surtout à dissuader. Voilà, nous gardons fermement la frontière et nous sommes là au cas où il y aurait une incursion qui n'a pas lieu d'être.
Emmanuel Macron a demandé notamment du calme et du sang-froid aux membres de l'armée. On a l'impression effectivement qu'il faut du sang-froid pour éviter que le moindre petit incident ne puisse dégénérer dans un conflit généralisé. Thierry Burkhard, le chef d'état-major des armées, s'est entretenu avec son homologue russe récemment. Est-ce que ça veut dire qu'il y a justement un téléphone rouge aujourd'hui pour éviter un conflit généralisé?
Il est extrêmement important de pouvoir maintenir des canaux de communication avec les autorités russes. C'est ce à quoi le président de la République s'emploie, c'est ce à quoi le chancelier allemand s'emploie. Et au plan militaire, de la même façon qu'il y a un canal au plan politique, il est important que ce canal demeure. Donc, nous avons toujours eu des échanges plus ou moins intenses, mais il est important que ces échanges puissent avoir lieu.
Ce même chef d'état-major des armées disait aujourd'hui que les Russes, là, en ce moment, ne sont pas prêts à des opérations de haute intensité. C'est vrai qu'on a l'impression que les lignes de front sur le terrain, j'entends, au sol, semblent un petit peu figées depuis quelques jours en Ukraine. C'est aussi quelque chose que vous constatez, vous pouvez nous le confirmer ?
Ce que nous constatons tous, c'est que cette invasion par la Russie de l'Ukraine ne se déroule pas exactement, probablement, conformément aux plans initiaux de Vladimir Poutine. Ce n'est pas une invasion éclair, d'abord parce que le peuple ukrainien, les armées ukrainiennes se défendent et se battent avec héroïsme. Ce n'est probablement pas ce à quoi le président Poutine s'attendait. Et probablement, ses armées ont rencontré des difficultés auxquelles elles n'étaient pas nécessairement préparées. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la fin du conflit. Ça veut simplement dire que c'est plus long que prévu. Et nous observons, en effet, au cours de ces dernières heures, une sorte de pause opérationnelle, mais dont on ne peut certainement pas inférer qu'elle signifie un ralentissement des opérations dans les prochains jours. Donc, je pense qu'il faut le voir comme une manière de se réorganiser et de poursuivre cet encerclement des villes qui semblent, en particulier celles de Kiev et celles de Kharkiv, mais aussi les villes du Sud, qui semblent être les objectifs principaux.
Merci Florence Parly d'avoir été notre invitée dans RTL Soir, dans ce RTL Soir exceptionnel. On vous le rappelle, 4 invités, 4 événements pour tout comprendre sur la guerre en Ukraine. Après les maires de Mariupol, de Kiev, après vous, Florence Parly, c'est Kaya Kallas, la première ministre de l'Estonie, qui sera avec nous à 19h parce que son pays est évidemment frontalier de la Russie. Une petite pause et ensuite on va défaire le monde dans RTL Soir, vos 20 minutes d'actu autrement. Tiens, dans la famille Poutine, nous demandons maintenant la femme, les filles et la maîtresse. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir.